Alors, on va commencer notre première leçon dans notre série « N'aimez point le monde » telle que donnée dans la première épître de Jean, au chapitre 2, au verset 15. Alors, dans la leçon 1, on va regarder qu'est-ce que le monde, selon les Écritures, et qu'est-ce que aimer le monde. Alors, si on dit à des chrétiens « arrêtez d'aimer le monde », nous pouvons nous attendre à de fortes réactions émotives. Certains recevront l'avertissement avec humilité et reconnaîtront que le problème peut être présent dans leur vie. D'autres afficheront une farouche résistance, voire une opposition à la réprimande. Beaucoup se placeront alors sur la défensive et pourront s'offusquer en disant « Comment sais-tu que j'aime le monde et comment oses-tu me juger ?» Le Seigneur lui-même nous commande de ne point aimer le monde. Alors on sait que les Écritures, toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc si ça fait partie d'un livre des Écritures, donc c'est Dieu qui veut nous avertir. Alors si on regarde le verset 1 Jean, chapitre 2, verset 15, ça dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alors, ce n'est pas un avertissement léger, un avertissement, je dirais, plutôt sévère. Alors, est-ce possible que la réaction négative de certains chrétiens face à cette mise en garde divine soit un symptôme qu'ils aiment le monde? Alors, l'apôtre Jean a écrit la première épître pour confirmer la foi des chrétiens et aussi pour les encourager dans la sainteté et dans l'amour. On voit par exemple dans le troisième chapitre, au verset 23, il dit « Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a commandé. » Alors dans la deuxième, dans le deuxième chapitre de son épître, la première épître bien entendu, Jean propose le remède pour guérir les infirmités des chrétiens faibles. Autrement dit, l'idée, c'est que les chrétiens deviennent faibles s'ils aiment trop le monde. Alors, la façon de le guérir, ce problème-là, c'est 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Il dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses. » Bien sûr, quand Jean dit « mes petits-enfants », il ne veut pas nécessairement dire des petits-enfants dans le sens de l'âge. Il parle de ses enfants spirituels comme étant ses petits-enfants. Donc, à l'intérieur de ça, il peut y avoir des adultes, des adolescents et même des vieillards. Il dit « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Alors, juste un rappel, le mot « propitiation », c'est le mot qui veut dire « détourner la colère de Dieu ». Alors, il dit « c'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, en parlant des croyants à qui il s'adresse dans l'Épître, mais aussi de ceux du monde entier, dans le sens, pas tous les êtres humains, mais ceux du monde entier, les chrétiens du monde entier. » Alors, Jean leur rappelle également que ce fait ne les autorise pas à pécher et ainsi à abuser de la grâce. Autrement dit, à cause du fait qu'on sait qu'on a un avocat. On a péché, on confesse notre péché, on a un avocat. Alors, la tentation serait grande de dire, bon, ben allons-y, péchons. Après ça, on se confessera. Après ça, Dieu va nous pardonner. Puis après ça, on va pouvoir continuer à vivre. Alors, il faut faire attention de ne pas changer la grâce de Dieu en dissolution, comme on dit. Alors, dans le deuxième chapitre aussi, de la première épître de Jean, les versets 3 à 6, et ça dit « Et par ceci nous connaissons, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. » Vois-tu, il donne ici une indication comment savoir si on est chrétien ou non. Il dit « Et par ceci nous savons que nous l'avons connu, en parlant de Christ, savoir si nous gardons ses commandements. » Alors, quand quelqu'un ne garde pas, obéit pas à la parole de Dieu, c'est un mauvais signe. « Celui qui dit, je l'ai connu, qui ne garde point ses commandements, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Alors, il y a deux choses qui nous sont marquées dans le verset, qui sont des indications pour savoir si on est des chrétiens ou non. Si on obéit ses commandements, et si on marche comme lui a marché. Alors, si on lit les évangiles, on voit que Christ marchait d'une façon que si on veut marcher comme lui, ça implique de l'obéissance. Et dans les versets 7 à 11, l'apôtre instruit les disciples de Christ en leur montrant le côté ancien et le côté nouveau de cette injonction divine. Il est en train de parler d'amour, puis il dit qu'il y a des choses anciennes dans ça, puis il y a des choses nouvelles. Alors il dit, « Frères, je vous écris non un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. » Autrement dit, les gens à l'époque de Jean, ils avaient déjà entendu parler de l'amour par la connaissance qu'ils avaient de l'Ancien Testament. Ça qui parle que, ce que je suis en train de vous parler d'amour, mais ce n'est pas nouveau. Ça existait avant. Maintenant, il est en train de dire, « Toutefois, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres passent et la vraie lumière, lui, déjà. » Autrement dit, il est en train de faire, de souligner le fait que dans le Nouveau Testament, c'est encore plus important d'aimer et d'obéir au Seigneur et d'obéir à ses commandements. Dans le verset 9, ça dit, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, est encore présent dans les ténèbres. » Voyez-vous, une autre indication pour savoir si on est chrétien. Si on n'aime pas nos frères et nos sœurs chrétiens, c'est un signe qu'on ne lui appartient probablement pas, parce que ça dit, « Celui qui est son frère est encore à présent dans les ténèbres. » Verset 10, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et rien en lui ne le fait broncher. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, et marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Ce qui est intéressant, c'est que ces versets-là s'adressent à des chrétiens. Et les versets 12 et 14 vont nous parler que c'est vraiment une injonction divine, un commandement divin de ne pas aimer le monde, mais que ça s'adresse à tous les chrétiens sans exception. Quand on regarde les versets 12 à 14, « Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris Père. » Alors, bien entendu, quand il dit Père, il fait probablement référence à des plus vieux chrétiens, non seulement en âge, mais en ancienneté dans la foi, parce que vous avez connu celui qui, dès le commencement, qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens. Donc, il parle à des enfants, à des plus vieux, et écrit des jeunes gens, donc des adolescents, des personnes de jeune âge. « Je vous écris, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. »« Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. »« Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Donc, autrement dit, Dieu nous avertit, tous les chrétiens sans exception, qu'on soit jeunes ou vieux dans la foi, que l'amour du monde nous guette, comme on dit, à tous les coins de rue. Et il faut savoir qu'est-ce que c'est, l'amour du monde. Et on va voir dans les différentes leçons comment on peut se débarrasser de ça, ou du moins amoindrir beaucoup. Alors, Jean les avertit tous qu'il ne faut pas qu'ils aiment le monde et les choses qui sont dans le monde, car ce sont de grands obstacles à leur sanctification et à l'amour qu'ils se doivent les uns aux autres. Donc, deux choses, c'est des obstacles pour notre sanctification, donc notre progrès spirituel, si on aime le monde, et c'est aussi un obstacle à l'amour qu'on se doit d'avoir les uns envers les autres. Alors, toutes ces remarques nous amènent à deux observations. Première observation, les Écritures nous appellent tous les croyants des saints. Alors, les saints, ceux qui ont reçu la grâce souveraine de Dieu, sont encore portés à aimer le monde parce que leur vieille nature, qui demeure encore en eux, trouve une attirance et une complaisance dans ce monde. Si cela n'était pas vrai, pourquoi le Seigneur prendrait-il la peine d'avertir de ce danger par l'intermédiaire de Jean? Même les chrétiens sont attirés par les choses que propose le monde, les plaisirs, les profits, les honneurs, et ceci d'une manière immodérée. Il faut nous surveiller car toutes nos affections, toutes nos imaginations, toutes nos dispositions nous inclinent vers l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. Donc, première observation, c'est qu'on est tous portés à ça. Deuxième observation, l'avertissement et la réprimande s'adressent à tous les chrétiens, sans exception, les très jeunes chrétiens, les pères et les jeunes gens. Donc, ces deux observations nous conduisent à présenter comment nous organiserons nos prochaines études. Alors, autrement dit, on va savoir qu'est-ce qu'on va voir au cours des prochaines leçons. Dans la leçon 1, celle qu'on fait ce soir, qu'est-ce que le monde et qu'est-ce qu'aimer le monde? Dans la prochaine, la deuxième leçon, on va voir les raisons pourquoi nous ne devons pas aimer le monde, selon les Écritures. Et la leçon 3, quels sont les rapports que nous devons avoir avec le monde? On ne peut pas éviter d'avoir des rapports avec le monde parce qu'on est dans le monde, mais comment on se doit d'encadrer tout ça? Comment les Écritures nous disent comment on doit réagir face au monde? Quatrième leçon, des applications. Autrement dit, les applications, comment on se doit de réagir face à tout ce que les Écritures nous enseignent sur le sujet. Et sa cinquième leçon va nous donner d'autres motifs pour ne pas aimer le monde. Et la sixième, c'est comment libérer notre cœur de l'amour du monde. Alors, c'est quand même une leçon, une petite série qui va faire un petit peu le tour de la question de l'amour du monde. Alors, on va commencer par le premier point, parce qu'on avait dit que la leçon 1, c'était « Qu'est-ce que le monde? » Alors, on va regarder une réponse. Il y a trois façons de comprendre le mot « monde ». Premièrement, ça peut vouloir dire la création matérielle. Autrement dit, quand Dieu nous dit, dans Genèse 1:1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », donc Dieu a créé le monde, dans ce sens-là, c'est la création matérielle de Dieu. Donc ça, les Écritures nous enseignent que c'est l'œuvre du Dieu trinitaire. Il y a des versets qui nous parlent que c'est Dieu le Père qui a créé le monde. Il y a des versets qui nous disent que c'est Dieu le Fils qui a créé le monde. Puis il y a des versets qui nous disent que c'est Dieu le Saint-Esprit qui a créé le monde. Donc, c'est les trois personnes de la Trinité qui ont créé le monde. Dans Colossiens 1:16, on va regarder le verset qui parle que Christ... Parce que dans Colossiens, dans le contexte, c'est clair qu'on parle de la personne de Christ. Ça dit « car en lui, en Christ », parce que si on faudrait aller voir les versets précédents, « car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Et là, regardez bien ce que ça dit, dernière partie du verset, « tout a été créé par lui » et pour lui. Donc, c'est vraiment un verset qui nous parle de l'aspect création de la part de Dieu le Fils. Troisième verset, Jean 1, versets 3 et 10. Toute chose, ici dans Jean 1, on sait que c'est les versets qui nous parlent de Christ. Christ était, la parole était au début, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Mais ça se dit toute chose, ici, dans le contexte, on parle de la parole avec un P majuscule, donc la personne de Christ encore. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Donc, la première façon de comprendre le mot « monde », c'est vraiment l'aspect création matérielle. Mais il y a d'autres... Et ce soir, on va plutôt parler de la deuxième façon. Alors, ça peut vouloir dire aussi les coutumes, les manières, l'adoration et les modes. Et ici, quand on parle de l'adoration, ça ne veut pas dire que l'adoration, c'est mondain. L'adoration biblique n'est pas mondaine, mais l'adoration hors Bible, ça devient de l'idolâtrie. Alors, quand on regarde alors Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Colossiens chapitre 2, versets 20 à 22. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, voyez-vous ici dans le sens, le monde, c'est pas dans le sens de la création matérielle. Rudiment du monde avec ses valeurs, ce qu'on vient de voir. Au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Dans le contexte, le verset nous parle que les hommes ont tendance à vouloir se rapprocher de Dieu, mais pas par les bonnes choses, par les privations, par les jeûnes excessifs et des choses semblables. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors ça, c'est vraiment un type d'adoration qui est faux. Et dans Galates, chapitre 4, versets 8 et 9, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir? De quoi il parle? Il parle des Juifs de l'époque qui, après la venue de Christ, ont voulu retourner dans le judaïsme, l'ancien système sacrificiel. Autrement dit, il dit que si tu veux retourner vers ça, tu retournes vers une forme de fausse adoration, qui n'est pas l'adoration biblique. Et Colossiens 2:8 dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Autrement dit, il faut que tu fasses attention parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a énormément de fausses religions, énormément de fausses philosophies. Et que si tu n'es pas attentif, tu peux vraiment te laisser prendre par tout cela. Donc, on a regardé la deuxième façon de comprendre qu'est-ce que le mot « monde » dans les Écritures veut dire. Donc, les coutumes, les manières, l'adoration et les modes. Et la troisième, c'est ce qu'on pourrait appeler la pompe et la splendeur. Vous vous souvenez que quand Christ a été tenté par le démon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il voulait lui offrir les royaumes du monde, il voulait lui offrir du pouvoir, et ça, c'est les instruments dont le Satan se sert pour faire avancer son royaume sur la terre. Il leur donne de l'argent, il leur donne de la puissance, du pouvoir. Ceux qui veulent vraiment servir Satan, il va lui en donner plein. Alors, c'est vraiment ce que Satan utilise pour faire avancer son royaume. Alors, bien entendu, c'est un abus de la grandeur et de la gloire de la création de Dieu, des excellences et des dons des hommes, et des profits et des plaisirs de ce monde. Autrement dit, Dieu n'est pas en train de dire que tu n'as pas le droit d'avoir des plaisirs, mais pas des plaisirs illimités et non encadrés. Alors, Galates 6, versets 12 à 15, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et 2 Timothée, chapitre 4, versets 9 et 10, « Viens ou plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Autrement dit, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il y avait une personne qui l'avait suivi pour faire de l'évangélisation dans ses voyages. Et la personne, au cours de son voyage, était tentée par les plaisirs du monde puis par toutes les affaires qui s'offraient à lui. Il a abandonné le ministère. Et c'est ça, il s'est laissé attirer par la pompe et la splendeur du monde, tout ce qui l'attirait autour de lui, et il s'est laissé glisser là-dedans. Alors, il n'a pas un bon choix. Pour résumer, l'expression « n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde » veut dire « n'aimez pas de façon démesurée ». Autrement dit, quand on aime les choses du monde de façon démesurée, c'est quand une chose prend la place de Dieu. Tu peux aimer ta femme, tu as le droit d'aimer ta femme, mais si ta femme prend la place de Dieu, c'est pas bon. Tu peux aimer tes études, tu peux aimer tes frères, tes sœurs, tu peux aimer plein de choses, mais pas si cet amour-là prend la place du Seigneur. Alors, n'aimez pas de façon démesurée et ces choses-là viennent prendre la place de Dieu. Donc, n'aimez pas les créatures, les hommes, les femmes, les enfants, les coutumes et les modes du monde. N'aimez pas sa splendeur, sa pompe, sa gloire et sa fausse adoration. Dans le fond, ça résume en gros qu'est-ce que c'est le monde. Maintenant, parce que le Seigneur il dit « N'aimez point le monde », donc il faut commencer par définir ce que ça veut dire. La deuxième chose, il dit « N'aimez point le monde ». Alors, aimer le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Si on ferait le tour, on ferait un tour de table, est-ce qu'on serait capable de donner 10 éléments de ce que c'est aimer le monde? Alors, l'auteur que j'utilise, il identifie 10 façon dont on peut voir dans nos vies qu'il y a l'amour du monde. La première, c'est d'estimer le monde trop hautement. Alors, les hommes sont portés à voir la prospérité comme une expression de leur bonheur et de la faveur divine. Ceci est très faux si le Seigneur est exclu de l'équation. Autrement dit, ça se peut que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne plein de choses. Mais si Dieu n'est plus dans l'équation, c'est pas bon. Alors, on va lire les versets, le psaume 144, versets 12 à 15. Il dit, « Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles, comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 000 000 dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. » Autrement dit, tout va bien, t'es riche, puis t'es dans l'abondance jusqu'aux oreilles. Mais après ça, ça dit, verset 15, « Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. » Autrement dit, il n'est pas en train de dire que t'as pas le droit de profiter de ces choses-là. Mais regardez bien la dernière partie du verset, c'est celle qui nous montre que, dans le fond, si Dieu est exclu, David dit « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Tu aurais beau avoir tout ça, puis la preuve, il y en a sur la terre qui ont tout ça, mais si Dieu n'est pas dans l'équation, ils vont mourir, ils vont laisser leurs affaires aux autres, et ils vont probablement aller en enfer s'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça si Dieu n'est pas dans l'équation? Donc, premier élément de qu'est-ce que c'est aimer le monde, c'est estimer le monde trop hautement. Alors Dieu, dans sa sagesse, vraiment nous donne la réponse dans la deuxième partie du verset 15, « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Autrement dit, tout le début du verset 12 à 15 nous parle de richesse, d'abondance, mais il est en train de nous dire, « Oh, fais attention, que si Dieu n'est pas là, c'est pas bon. » Deuxième élément, c'est fixer nos pensées sur le monde. Les pensées de l'homme sont portées à se fixer sur ce qu'il aime. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai, ça? Qu'on est porté à fixer nos pensées sur ce qu'on aime. Si vous aimez un homme, une femme qui aime un homme, elle va penser à son homme très souvent. Et l'inverse est vrai aussi. Alors, on est porté à fixer nos pensées sur ce qu'on aime. Alors, psaume 119, versets 97 à 99, ici, David nous dit que lui, il aime la Bible. Il aime les Écritures. Il dit « Combien j'aime ta loi. » Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Qu'est-ce qu'il y avait dans ses pensées, David? Elle est tout le jour l'objet de mes méditations. Il ne pense pas au monde, il ne pense pas au trésor, il ne pense pas à la richesse, il pense à la parole de Dieu et il médite à longueur de journée. Autrement dit, puisqu'il aime Dieu, il lit sa parole, donc l'objet de tes pensées se dirige, se fixe vers ce que tu aimes. Verset 98, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. » car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Tes préceptes, encore là, la parole, deux fois il nous dit que tout le jour il médite la parole de Dieu. Donc, ce qu'il aime, ses pensées sont fixées sur ce qu'il aime. Les chrétiens doivent faire attention de ne pas fixer leurs pensées sur les choses de ce monde. Les plaisirs, que le monde nous offre, les honneurs que le monde nous offre, les profits que le monde nous offre et les délices que le monde nous offre. Le monde nous attire de tous bords, tous côtés, à tous les jours, par les médias, par Internet, par la télévision, par le cinéma, par les livres. Tout est là pour essayer d'attirer notre attention et de fixer nos pensées sur ces choses-là. Parce que si on est fixé sur ces choses-là, bien sûr, le monde nous tient captifs. Et c'est justement, la Bible nous dit de faire attention pour pas que ça soit le cas. Alors, dans le psaume 49, versets 9 à 11, « Pour qu'il continue de vivre à perpétuité et qu'il ne voit point le tombeau, car on voit que les sages meurent. Le fou et l'insensé périssent également et laissent leurs biens à d'autres. Ils pensent que leurs maisons dureront éternellement et leurs demeures d'âge en âge. Ils ont donné leur nom à leur terre. » Autrement dit, il est en train de parler que l'être humain, il pense qu'il va toujours rester vivant sur la terre. Il ne pense pas à l'au-delà. Il ne pense pas à l'éternité. Philippiens, chapitre 3, versets 18 à 20. « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Voyez-vous, il est en train de parler les pensées. Il dit, il leur fait un reproche. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il dit, notre cité à nous est au ciel. Donc, nos pensées, ça devrait être céleste et non pas uniquement terrestre. Troisième élément, de ce que c'est aimer le monde, lorsque nos désirs sont portés vers le monde. Exode 20, verset 17, vous savez que c'est un commandement de Dieu. Il dit, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. » N'est-ce pas que si on a le moindrement le sens d'observation, qu'on voit que les gens autour de nous sont toujours en train de désirer quelque chose? La femme de l'autre, la maison de l'autre, le bateau de l'autre, c'est la convoitise. Christ, quand il est venu sur la terre, a fait des sévères avertissements en nous disant qu'on est portés, tous les êtres humains, même sauvés, on est encore portés à la convoitise. Jacques, chapitre 1, versets 13 et 15, « Que personne ne dise... lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché et le péché étant consommé, engendre la mort. » Autrement dit, il dit, fais attention à ce que tu penses, parce que si tu ne fais pas attention à ce que tu penses, tu vas tomber dans le péché et tu vas t'enraciner dans le péché, tu vas t'encrouter dans le péché et tu vas éventuellement t'en aller vers la mort. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Autrement dit, qu'est-ce que les Écritures sont en train de nous donner dans 2 Pierre? C'est que Dieu nous a donné absolument tout ce qu'on a besoin pour notre vie spirituelle et pour notre piété. Et si on n'est pas pleinement... Si on aime le monde, c'est la preuve qu'on ne se sert pas d'absolument tout ce qu'il nous a donné. Ou du moins qu'on s'en sert peu, peu ou pas assez. Quatrième élément, c'est fixer son cœur sur les choses de la terre. Psaume 62, verset 10. « Ne vous confiez pas dans la violence, ne soyez pas séduits par la rapine. Si les richesses abondent, n'y mettrez pas votre cœur. » Matthieu 24, 38, 39. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça donne bien parce qu'on est en train d'étudier la Genèse, on est justement dans ce chapitre-là. Et le Seigneur nous dit que à cette époque-là, on a vu dans le livre de Genèse que les hommes étaient portés, toutes leurs pensées étaient uniquement dirigées vers le mal. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit qu'il va arriver à la fin des temps? Il dit qu'il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Autrement dit, plus on va se rapprocher du temps de la fin, plus on va être porté à se laisser influencer par le mal autour de nous et par se laisser attirer et y aller vers le mal aussi. Alors, le monde, c'est ça qui finit par nous. Et Colossiens, chapitre 3, verset 2, nous donne le remède pour ne pas fixer son cœur sur les choses de la terre. Il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » Cinquième élément, c'est d'employer le gros de nos forces dans ou à propos du monde. Autrement dit, on sait qu'on a de l'énergie. Si le gros de notre énergie est utilisé uniquement dans le but de conquérir des choses du monde, bien, quelque part, ça vient peut-être démontrer où est notre cœur. Alors, Jean, chapitre 6, verset 27, « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. » Autrement dit, l'idée, c'est notre idée à nous, c'est qu'on devrait toujours essayer de travailler pour des choses spirituelles, pour se rapprocher de Dieu, et non pas dans le but d'accumuler des richesses et des honneurs et des choses semblables. Romains 13, versets 13 à 14. « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » L'amour du monde, c'est justement avoir soin de la chair pour satisfaire les convoitises qu'elle nous offre de tout bord, de tout côté. Et les Écritures nous avertissent de faire attention à ça. Sixième élément, lorsque nous endurons des épreuves et des privations pour lui. Les hommes sont parfois disposés à endurer de grandes souffrances et de grandes difficultés pour acquérir des biens. Cependant, ils négligent parfois de façon étourdie et inconsciente les moyens de grâce qui leur sont proposés pour se maintenir sur le chemin étroit et resserré et pour renforcer leur intérêt pour Christ et pour le ciel. Alors, Amos, chapitre 8, versets 4 à 7, « Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays, vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'effort, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré, par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. » Autrement dit, ici, l'idée est en train de nous montrer que le peuple d'Israël était porté, il avait tellement hâte que les choses spirituelles, religieuses, se terminent pour continuer à accumuler et à vendre, à acheter des esclaves, c'est ce que ça dit, ce qu'ils faisaient, là. Quand finira le sabbat afin que nous puissions remplir nos greniers? Autrement dit, les choses, ça nous ennuie, on a hâte d'en sortir pour pouvoir continuer nos affaires. Psaume 107, versets 23 à 30. Ceux qui étaient ici, ils veulent nous montrer qu'il y a des gens qui se donnent beaucoup de peine pour aller accumuler des biens. Les personnes, à cette époque-là, les personnes qui embarquaient sur des bateaux pour aller chercher des biens au loin, ils prenaient des méchants risques, ils risquaient leur vie. Autrement dit, ce qui est l'idée du passage est pour nous montrer que les hommes, pour aller chercher des choses du monde, des biens matériels, sont prêts presque à risquer leur vie, alors qu'ils ne lèveraient pas le petit doigt pour des choses spirituelles, bien souvent. Alors, ça que ça dit. « Ceux qui étaient descendus dans la mer, dans des navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il monta vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Autrement dit, tu es en train de dire que des fois, sur la mer, les marins peuvent avoir tellement la frousse que ça dit leur âme était éperdue en face du danger. Autrement dit, les hommes, pour acquérir des biens, sont prêts à risquer leur vie. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Et où on voit que les hommes sont prêts à faire des grands dangers, à affronter des grands dangers. Mais quand ils sont vraiment dans le trouble, qu'est-ce que ça dit? Ils crient à l'Éternel et l'Éternel, dans sa bonté, souvent, va calmer la tempête et empêcher que ces hommes-là meurent. Le septième élément, pour nous, qu'est-ce que c'est l'amour du monde? Lorsque nous surveillons toutes les occasions pour acquérir les choses du monde, lorsque toutes nos pensées sont absorbées par le désir d'acheter le moins cher et de vendre le plus cher, de s'approprier des biens, des maisons, des terrains, et le but de tout ça, bien entendu, c'est pour nous élever nous-mêmes. Luc 16, verset 8, ici c'est Jésus, dit « Le maître loua l'économe infidèle lorsqu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne sont les enfants de lumière. » Autrement dit, tu es en train de dire que les êtres humains, quand ils ne sont pas sauvés, sont très habiles pour faire des crocheries, pour se faire de l'argent. Autrement dit, dans le but d'avoir ce qu'ils veulent, ils sont prêts à faire plein de choses. Mais il dit qu'ils sont plus sages, dans le sens, pas qu'ils sont plus sages, dans le sens que nous, on ne travaille pas aussi fort qu'eux, et on n'est pas aussi habiles dans le but d'exploiter les ressources que le Seigneur nous a données, dans le but de s'élever, nous aussi, mais pas s'élever pour des biens matériels, s'élever pour Dieu lui-même. Dans Luc 12, aussi, versets 29 à 31. « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Que nous, comme chrétiens, on doit avoir une seule idée, chercher les choses de Dieu, puis les choses matériel qu'on a besoin, le Seigneur, il sait qu'on a besoin, il va nous les donner. Pas plus compliqué que ça. Mais on a tellement peur. On a tellement peur de faire confiance au Seigneur. Proverbe 18, versets 10 et 11. Le nom de l'Éternel est une forte tour. Le juste y court, il y est dans une haute retraite. Les biens du riche sont sa ville forte et comme une haute muraille dans son imagination. Voyez-vous, ça dit bien dans son imagination. Il se confie dans ses richesses et il est sûr que c'est vraiment comme une... Dans le temps, il y avait des guerres et il y avait des tours. Quand tu te réfugiais dans la tour, c'était une protection contre les attaques de l'extérieur. Et lui, il voit ses richesses comme étant une tour, que ça va le protéger de quoi que ce soit qui va arriver. Mais ça dit bien, sa ville forte est comme une muraille morte dans son imagination. C'est juste dans sa tête que ça se passe. Et la huitième, c'est quand nos conversations tournent autour des choses du monde. Souvent, une façon d'évaluer si un chrétien est en bonne santé spirituelle, c'est d'écouter ses conversations quand on le rencontre de façon naturelle, comme ça. Quand on parle spontanément de Christ, de Dieu, des choses spirituelles, de la Bible, c'est un signe qu'on est en bonne santé spirituelle. Mais quand quelqu'un... Toutes ces conversations tournent uniquement juste autour des choses du monde. C'est fort probablement que son cœur aime le monde. Matthieu 12, versets 34 à 36, le Seigneur parle. Il parle aux pharisiens. Il dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. » Autrement dit, les versets nous enseignent que c'est par nos conversations que les autres voient à qui on appartient, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie. 1 Jean chapitre 4, versets 4 et 5, « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » Romains 8, 5, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Bien sûr, si quelqu'un s'intéresse juste aux choses du monde, s'affectionner, ça veut dire aimer, s'affectionne aux choses de la chair, donc les choses du monde. Ésaïe 58, versets 13 et 14, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Et ne viennent, lorsque nous gémissons et lorsque nous nous lamentons quand les choses de ce monde nous sont enlevées. Et les choses de ce monde, ici, c'est vraiment dans le sens large du mot. Alors, nous ne devons pas nous affliger outre mesure lorsque nous perdons des personnes ou des choses de ce monde, des propriétés, des profits, des honneurs, ou même des êtres humains. On perd un frère, une sœur, on perd notre épouse, nos enfants. Bien sûr, les Écritures ne nous disent pas de pas avoir de peine. Mais outre mesure, c'est que moi, j'ai déjà entendu parler de certaines personnes que, disons, sa femme meurt, il n'en revient jamais. Là. C'est comme, il met toutes ses énergies là-dessus, il pense rien qu'à ça. Alors, la Bible nous dit, oui, tu as le droit d'avoir de la peine, mais pense qu'il y a d'autres choses en haut. Alors, Isaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, c'est Dieu qui parle. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quand on lit, par exemple, des biographies de missionnaires ou de pasteurs, souvent de grands pasteurs bien connus, on voit que des fois, Dieu a permis qu'ils perdent leurs épouses, Dieu a permis qu'ils perdent leurs enfants. Bien entendu, la personne ne se doit pas de se laisser aller au découragement, mais de se ressaisir et de penser que Dieu est encore là, il s'occupe encore de toi. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Quel beau verset! Moi, je trouve que ce verset-là est tellement beau. Si on le comprenait vraiment, on n'aurait plus d'inquiétude. Ou du moins, si on en avait, on ferait comme le verset dit, se décharger sur lui de tous nos soucis. Et tellement beau la deuxième partie, car lui-même, Dieu lui-même, dans toute sa grandeur, dans toute sa bonté, dans toute son intelligence, dans toute sa miséricorde, sa grâce, etc., etc., donc, tous les attributs de Dieu, lui-même prend soin de vous, individu. Quand on est chrétien, c'est un verset qu'on devrait apprendre par cœur et ne jamais s'inquiéter. Et dès qu'on voit qu'il y a une inquiétude qui monte à notre esprit, on se devrait de toujours répéter le verset de manière à ce que de se rappeler que Dieu prend soin de nous quand on est des chrétiens. Et le dixième élément, quand nous sommes résolus de devenir riches. Autrement dit, c'est un très grave danger qu'une personne décide de mettre ses énergies et qui vise de devenir riche. 1 Timothée chapitre 6, versets 9 et 10. Écoutez bien, mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Mmh. Alors, quand vous voyez un chrétien qui est possédé par le désir de devenir riche, il n'est pas en santé spirituelle, il a l'amour du monde dans son cœur. Et Matthieu 6, 24, le Seigneur nous avertit de façon très, très claire, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est le Dieu des richesses. Autrement dit, tu ne peux pas à la fois courir après Dieu et courir après... Parce que éventuellement, tu vas faire ton choix final. Si tu essaies de courir les deux, ça ne marchera pas. Et c'est Christ lui-même qui parle, c'est Dieu lui-même. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui, de cette brève étude sur l'amour du monde? Implorons sincèrement l'Éternel de nous sonder pour nous révéler et pour nous éloigner de tout ce qu'il peut y avoir de mondain dans nos vies. J'avais envie de marquer comme conclusion, sondons-nous nous-mêmes. Mais on est tellement habiles à se séduire nous-mêmes. Mais si on demande à Dieu de nous sonder, là, on risque plus d'avoir l'heure juste. Alors, comme ça dit dans le psaume 26, verset 2, « Éternel, sonde-moi et m'éprouve, examine mes reins et mon cœur. » Par sa grâce et pour sa gloire.
Amen. Amen.